Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Crayon à la main, caméra à l'épaule, nagra numérique ou appareil photo en bandoulière, ils sont journalistes et s'attellent à des enquêtes, parfois au long cours, afin d'informer, de révéler, de sensibiliser aussi. L'environnement est devenu leur terrain d'enquête et les enjeux multiples qui découlent de ce secteur, au cœur de préoccupations grandissantes, peuvent faire d'eux des cibles. Ainsi, l'affaire du fichier établi pour Monsanto montre, s'il en est, que les questions environnementales sont un terrain d'investigation qui peut déranger. Comment travaille-t-on sur ces sujets? Doit-on combler des vides et générer des données pour éclairer certaines situations? Le support média change-t-il la donne? Nous en discutons aujourd'hui avec trois journalistes d'expérience. Stéphane Foucard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste des pages Planète Science du Monde. On vous doit, avec Stéphane Aurel, le dossier sur l'affaire des Monsanto Papers, publié dans Le Monde. Hervé Kemp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du site reporter.net et l'un des premiers à avoir investi ce domaine, on peut le dire, auteur notamment du livre « Tout est prêt pour que tout empire », un livre paru au Seuil. Et Martin Boudot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de documentaires et notamment ceux qui seront présentés mercredi prochain sur France 5 dès 20h50. Paraguay, les cultures empoisonnées et suivi de Indonésie, le fleuve victime de la mode. Deux films diffusés à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Et bien sûr, notre émission est toujours en partenariat avec les pages Planète Science du Monde, également avec France 5 pour ce numéro, et préparée par Anne Morales, avec notre petite troupe, Anne Gouzon, Valérie Arnoux, Caroline Chausset, Vanessa Chang, toujours réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui, Nasser Moussaoui. Bonjour à tous et bienvenue.
Dans les fichiers dont nous révélions l'existence hier, plus de 200 noms. Décideurs publics, aux fonctionnaires, journalistes, plusieurs d'entre eux ont déjà annoncé depuis 24 heures qu'ils allaient porter plainte. Dans la base de données secrète, tenue par une agence de communication travaillant pour Monsanto, se trouve par exemple cette responsable associative, très active dans la défense des consommateurs. Karine Jacquemart est notamment référencée comme forte opposante au glyphosate.
La pratique qui consiste à faire un fichier sur des personnes avec des informations qui concernent des individus sans les avoir consultés ou même informés, ça c'est une pratique illégale. Point. Même quand on s'appelle Monsanto ou un lobby de Monsanto, on n'est pas au-dessus des lois. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.
Et voici l'extrait d'un reportage diffusé le 11 mai dernier sur France 3, l'affaire du fichier. Stéphane Foucard, une bombe sur les 200 noms, 100 sont des journalistes. Et donc vous êtes au cœur de ces révélations.
Oui, avec France 2, on a révélé l'existence donc de ce fameux fichier qui montre, comme vous venez de le dire, que les journalistes sont au cœur en fait du dispositif d'influence que cherchent à mettre en place des sociétés comme Monsanto, mais d'autres. Une centaine donc de journalistes qui sont fichés dans ces documents et avec, outre le fichier proprement dit, qui indexe les opinions des uns et des autres, qui les classe sur une échelle de 1 à 5. Leurs opinions sur les produits de Monsanto, sur la société, sur les OGM en général, sur les pesticides, sur le glyphosate en particulier. Outre ces informations, qui constituent donc un fichage d'opinions quelque part philosophique ou politique, c'est assez grave malgré tout. Donc outre ces informations, il y a aussi tout un plan de ce que les firmes de relations publiques appellent le plan d'engagement des cibles, où on voit journaliste, partie prenante par partie prenante, une sorte de classification en fonction du caractère stratégique de cette cible, de ce qu'il va falloir mettre en place pour la convaincre, quel type d'interlocuteur il va falloir lui présenter pour la convaincre, quel type d'interlocuteur elle a déjà rencontré ou pas. Est-ce que, dans le cas des journalistes, est-ce qu'il y a eu des papiers plutôt positifs, plutôt neutres, plutôt négatifs qui ont été publiés, etc. etc. Donc on voit que c'est une machinerie assez sophistiquée, assez complexe qui est mise en œuvre. Et dont on n'a que finalement un tout petit aperçu avec ce fichier. Et c'est quelque chose qu'on avait dit avec ma consoeur Stéphane Aurel dans les premiers articles qu'on a rédigés à ce sujet. Ce qui transparaît dans ce fichier, c'est que c'est un fichier qui est international. Nous, on a eu vraisemblablement accès qu'à la partie française du fichier. Ça a été confirmé quelques jours plus tard par le patron de Bayer, Werner Baumann, qui a déclaré que c'était en effet une pratique qui était en œuvre à l'échelle de l'Europe. Il y a au moins 7 pays européens qui sont concernés. La semaine dernière, Werner Baumann a divulgué le fait que 300 personnalités allemandes sont fichées dans un document semblable. Donc, en réalité, nous, ce qu'on a pu observer, c'est vraiment le tout début de quelque chose qui était en train de se mettre en place et qui aujourd'hui manifeste justement a une ampleur bien supérieure.
Et donc des plaintes ont été déposées, ouverture d'une enquête préliminaire en France. Hein, et je rappelle juste que Monsanto Bayer fait déjà face à 13 400 plaintes déposées seulement aux États-Unis. Donc là, pour eux, effectivement, le vent tourne depuis quelque temps quand même avec cette histoire du glyphosate, notamment Hervé Kempf. Est-ce que, à l'annonce de ce fichier, vous êtes dit « oulala, je fais peut-être partie de tout ça, moi ». Parce que le fichier a été établi donc en 2016, vous étiez déjà en train de travailler quand même sur le terrain de l'environnement depuis bien des années.
Oui, mais en fait, on s'est dit que sur le glyphosate, on n'avait pas sorti des choses particulièrement importantes. Et en 2016, on était reporter était plus petit, donc je pense qu'on n'était pas dans le radar de ces gens de Monsanto, oui. Ou des publicitaires, des relations publiques travaillant pour Monsanto. Je pense que le fichier aurait été 10 ans auparavant, comme j'avais beaucoup travaillé sur les OGM, à une époque où c'était une lutte très forte, on aurait été dedans, et sans doute Stéphane aussi. Mais là, non. En revanche, c'est très intéressant. Je pense que, en fait, vous avez décelé une sorte de pointe émergente. Parce que je suis en fait absolument persuadé que toutes les grosses firmes, Total en France, EDF, ont des fichiers de ce genre pour classer leurs partenaires, etc. Après, on a quelque part envie de leur dire, c'est presque normal, mais il y a quelque chose qui s'appelle la RGPD, c'est-à-dire la Revue Générale des Données Publiques, et il y a des règles à respecter. Donc si vous voulez ficher les journalistes, les politiques, etc., faites-le, mais vous devez le déclarer à la CNIL, sinon vous êtes totalement hors la loi.
En tout cas, ces fichiers, effectivement, on sent que derrière, il y a des marchés colossaux hein, à la clé, on touche à l'économie, et que l'argent souvent pèse un peu plus contre la santé et les citoyens. Stéphane Foucault.
Peut-être ajouter que, comme l'a dit Hervé, le fichier auquel on a eu accès date de fin 2016.
Oui.
Donc, c'est un fichier qui est quasiment une version bêta du fichier qui doit exister aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fin 2016, les Monsanto Papers n'ont pas encore été dévoilés. Le niveau du débat public sur le glyphosate reste à un niveau d'intensité assez faible. Il n'y a pas de communication de crise à mettre en place. Donc moi, je serais très curieux de
savoir. Mais il va y avoir un vote à l'échelle européenne.
Oui,
c'est
mais,
ça aussi.
Mais il n'y a pas eu
pour
encore.
Pour renouveler l'autorisation du glyphosate.
Il n'y a pas eu encore les grandes révélations sur voilà, les documents internes de Monsanto qui montrent que Monsanto, depuis au moins la fin des années 90, est parfaitement au courant que son produit pose un certain nombre de problèmes, qu'ils ont caché des données, etc. Donc il est très vraisemblable qu'aujourd'hui, Hervé Kempf soit aussi dans le fichier.
Ou des journalistes de reporters. Puisqu'on est là pour parler aussi de journalistes, c'est évidemment la question que sont posées Marie Astier ou Lorraine Lavocat. Ah, nous, on a fait tes articles, est-ce que tu crois qu'on est dedans, etc.
Bon. On n'est qu'au début d'un fil que l'on tire, comme vous disiez.
Oui, en fait, on n'est pas très pressé, mais si je peux rebondir sur autre chose, en revanche, il y a une inquiétude qu'on peut avoir, et je sors un peu de ça, c'est on a souvent l'impression qu'on peut être écouté par en fait, des services de l'État. Puisque suivre l'environnement, ça peut aussi être suivre les luttes de l'environnement, donc des terrains difficiles qui peuvent être catalogués comme anormaux. Par exemple, il y a le bureau de la lutte antiterroriste qui a été chargé par l'État d'enquêter sur les gens qui décrochent des portraits de Macron, ce qui est quand même invraisemblable. Et donc, voilà, on peut se poser la question dans la mesure... Enfin, nous, on fait très attention quand on suit ce genre d'action de ne pas en parler au téléphone, par exemple, parce qu'on peut avoir des inquiétudes à ce propos.
Martin Boudou, est-ce que, justement, quand vous menez vos enquêtes, là, on va rentrer plus avant dans vos films, est-ce que vous avez comme ça ces méthodes un petit peu de sécurité, c'est-à-dire pas parler de tout au téléphone?
Absolument, on utilise des messageries cryptées, Signal, WhatsApp, en l'occurrence, pour ne pas les citer, mais en même temps, ça fait du bien de les citer, parce que j'encourage les lanceurs d'alerte à utiliser plutôt ces messageries-là qu'un simple texto. L'idée, c'est de sécuriser et de protéger ceux qui nous parlent, les lanceurs d'alerte. Hervé en parlait juste avant. C'est eux les vrais courageux et ceux qui prennent le plus de risques. Nous, on est journalistes, donc on a une certaine protection, même si en ce moment, on voit que la DGSI a du temps à perdre, de l'argent à dépenser, à nous demander de venir dans ses bureaux. Mais c'est vrai que...
Vous parlez de Ariane Chemin concernant l'affaire Benalla.
Ariane Chemin, les journalistes notamment. Disclose, etc. Enfin, d'ailleurs, je me demande, c'est incroyable qu'on dépense autant d'argent public pour rechercher les sources d'un journaliste. Je pense qu'on a autre chose à faire. Je pense que la DGSI a également autre chose à faire. Je ferme la parenthèse. Sur le terrain, donc, on fait très attention parce que nous, moi en l'occurrence, quand je vais au Paraguay, quand je vais en Indonésie, en Afrique du Sud, je m'en vais à un moment donné. La question, c'est de savoir ceux qui m'ont parlé, les lanceurs d'alerte avec qui j'ai travaillé, eux, ils vont rester sur place. Et c'est ceux qui sont les plus en danger potentiel. Donc, c'est vrai que dans mon cas, moi, je fais surtout attention à bien protéger ces personnes-là. Et moi, je sais que de toute façon, je vais rester 1-2 mois sur place et qu'à un moment donné, le fait d'être français, journaliste, journaliste à l'étranger, mine de rien, est encore une certaine protection.
Stéphane Foucart, la source, et oui, effectivement, vous, la source, bien sûr, du fichier, on ne vous la demande pas, mais est-ce que vous sentez qu'il peut y avoir des pressions et que là où, normalement, les journalistes ont encore le droit d'avoir la confidentialité sur les sources, on sent que c'est quand même fragile et qu'il y a des attaques aussi.
Oui, alors c'est pas quelque chose que moi j'ai expérimenté personnellement. Moi, je fais moins de terrain que Martin. Hein. Je suis plus...
C'est un autre terrain, en fait.
Voilà, c'est un autre terrain. C'est un
vous arpentez des archives, mais que vous obtenez aussi par des sources.
Voilà, des archives qu'on obtient par des sources ou simplement en allant regarder des données qui sont publiques. Hein, parce qu'il y a aussi ça, c'est que moi, je suis convaincu qu'il y a une grande part de ce qui est publié dans la littérature scientifique, par exemple, ou de ce qui est rendu public au terme de procès, notamment aux États-Unis, puisqu'il y a des procédures un petit peu spécifiques qui se mettent en place pour divulguer un certain nombre de documents internes qui sont, par exemple, piochés dans les archives de grandes sociétés. Moi, je crois que, déjà là-dedans, on a une matière phénoménale à enquête. Il y a beaucoup plus de choses qui sont publiquement accessibles et qui peuvent donner lieu à une enquête ou à un traitement journalistique critique que ce qu'on peut imaginer.
Alors, il existe, comme disait Martin Boudou, des pays aussi où la législation n'est pas aussi draconienne, où les normes sont plus souples, où les personnes sont plus en danger, et celles qu'on laisse derrière soi, comme au Paraguay, par exemple, et où des citoyens sont des victimes. Je propose d'écouter d'emblée cet extrait de votre documentaire Paraguay, les cultures empoisonnées.
La plus jeune est morte à 11h du matin et l'aînée à 11h du soir.
En 2014, Adela, 6 mois, et Adélaïde, 3 ans, meurent à quelques heures d'intervalle après avoir été exposée aux épandages de pesticides.
Sa mère et moi, nous ne savions pas quoi faire. Les deux filles étaient là, étendues. Elles n'arrivaient plus à respirer. Rien de pire ne pouvait nous arriver dans la vie.
Leur père Benitez se souvient.
Ce jour-là, autour de chez nous, les producteurs de soja ont épandu pendant 24 heures des pesticides. En avion. En tracteur.
Tout le village est intoxiqué.
Ça, c'est une photo de l'hôpital. 26 enfants ont été admis à l'hôpital local.
Deux décès, 26 enfants hospitalisés, 7 adultes intoxiqués et un cheptel décimé.
Près de 50 vaches sont mortes dans le village ce jour-là. Ce chien, il est mort après avoir mangé le cadavre d'une vache.
Martin Boudou, on comprend que là vous êtes sur un terrain sensible, et plus que sensible bien évidemment, on se pose forcément la question, vous en parliez tout à l'heure, de ces personnes qui préviennent aussi, de ces alerteurs. De votre côté, comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce scandale ?
Celui-ci sur place, très clairement, c'est un scandale national mais qui a été passé sous silence. Ça a fait beaucoup de bruit, mais vraiment que à l'intérieur du pays, au Paraguay. Et c'est des gens sur place qui me parlaient tous, tout le temps, du même scandale, du même nom, du même village, etc. Et on a voulu en savoir davantage. Et effectivement, on est allé sur les lieux. Et les preuves sont accablantes. Les témoignages sont concordants. On a rencontré les professionnels de santé, etc. Parce qu'à ce moment, à un moment donné, on se disait, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Deux décès, 14 enfants intoxiqués, gravement intoxiqués. On parle pas d'un rhume, hein. On parle d'enfants qui ont eu des conséquences neurologiques graves. Donc, c'est certainement un neurotoxique très fort qui a causé le décès et le nombre de blessés. C'est en discutant avec les gens sur place, dans la pampa entre guillemets paraguayenne, qu'on se rend compte qu'il y a un village comme ça qui a vécu un drame. Et en recoupant les témoignages, en faisant notre travail tout simplement, on finit par arriver à une sorte de vérité. Et surtout, on se rend compte à quel point ça a été caché par les autorités, parce qu'il faut savoir que le soja paraguayen, c'est l'or vert du Paraguay. Donc il est hors de question de toucher à cette industrie. 85% des terres arables au Paraguay sont destinées au soja. C'est une manne financière énorme, on les appelle les sorejos, c'est les plus puissants du pays.
Et ce que vous découvrez, c'est qu'en fait, ceux qui cultivent et qui font ces épandages ne respectent pas du tout les normes. Parce qu'il y a quand même des normes qui sont peut-être moins Absolument. Draconiennes que celles existant chez nous. Mais
une norme très simple, quand il y a plus de 10 km/h de vent, il n'y a pas d'épandage. C'est à peu près la même chose en France. On a eu, je pense, une quarantaine d'épandages à plus de 10 km/h. On les a filmés, on voit en direct l'anémomètre. Merci, l'anémomètre. où on voit qu'on est à 17, 22, 24 km/h. On voit les épandages, on voit les villages à une cinquantaine de mètres et on voit cet épandage en direct. Et moi, je vais après sur place, quand ils ont un peu le dos tourné, il faut le dire, regarder ce qu'ils mettent dans leur cuve. Et on parle de produits interdits depuis 15 ans en France, des neurotoxiques, des cancérigènes. Mais pas là-bas.
Pour le coup, là-bas, ils sont autorisés.
Non. Alors, certains sont encore autorisés, certains sont interdits, mais ils l'utilisent quand même. Il y a tellement peu de contrôle. Il faut aussi se rendre compte, parfois, de la chance qu'on a d'être en France, d'avoir quand même une législature assez poussée et vraiment des normes quand même qui nous permettent d'être protégés plus ou moins. On peut toujours améliorer, mais sur place, il y a zéro contrôle. Les propriétaires terriens, ils ne sont jamais embêtés, jamais.
Alors, vos documentaires sont très incarnés, hein. Donc il y a une méthode d'enquête aussi, de réalisation spécifique. Quand vous décidez de partir sur ce genre de film et d'enquête, finalement, comment vous travaillez? Quels sont vos objectifs, les motivations? J'ai envie de reprendre c'est la phrase d'Albert Londres, hein, qui dit, et tout le monde la connaît, enfin j'imagine, planter la plume dans la plaie. Voilà. Alors vous, c'est la caméra, avec Stéphane Foucard, on parlera de la plume aussi avec Hervé Kemp, mais il y a aussi la façon dont on va traiter ce sujet pour être efficace. Avec ce film-là, non seulement vous témoignez, mais vous allez aussi devoir enquêter, devenir même scientifique ou laborantin auprès de scientifiques.
Alors, je suis pas scientifique, je travaille en collaboration avec des scientifiques. C'est très important parce que on a des gens qui vont nous écouter aujourd'hui et on a certainement des lobbies qu'on salue. Mais voilà, il faut faire très attention parce que si on commence à dire qu'un journaliste est scientifique, la première chose que va faire un groupement d'intérêts en face, c'est de dire « Attendez, c'est quoi cette histoire? C'est pas du tout crédible. » Moi, j'ai travaillé en collaboration avec des scientifiques. J'apporte un certain financement pour pouvoir élargir leur étude et effectivement le terme de laborantin me va à peu près puisque je les aide dans leurs prélèvements, etc. Eux, ils font l'étude donc sur la... C'est très simple, hein, ce qu'on a fait sur place avec ces scientifiques. On a pris un village qui est encerclé de scientifiques, de pesticides, pardon, et un autre village, le seul village bio du Paraguay. Et on a analysé les dommages génétiques d'une cinquantaine d'enfants dans ces deux villages et essayé de voir s'il y avait une vraie différence. Il y a une différence majeure. Et eux, ils ont fait ça, je les ai accompagnés, mais moi, en plus de ça, j'ai fait des prélèvements de soja, des prélèvements de terre, des prélèvements d'eau, pour essayer de savoir quel pesticide était utilisé, de quoi on parle et qui est responsable, d'essayer de remonter la chaîne de responsabilité. Vous parliez du journalisme, quel était mon journalisme? Moi, mon journalisme, il est engagé, il essaie d'être utile. Je suis pas militant, parce que le militantisme a tendance à vous aveugler et d'oublier de faire le contradictoire, d'aller voir les gens en face. Moi, je veux juste être le plus utile possible et le plus carré possible. Et je trouve que la science, dans l'environnement, apporte un fait qui peut être critiqué, mais on n'est plus dans l'opinion, on est dans le fait. Alors, regardons comment l'étude a été faite, etc. Mais je crois que c'est pour nous, journalistes d'investigation, la science, dans le thème de l'environnement, est un allié formidable. Donc, il faut la regarder, il faut l'enquêter, il faut la comprendre.
Alors, on écoute un autre extrait de votre documentaire.
Ah, c'est ici, le laboratoire. Voici les échantillons.
Parfait.
Il débute immédiatement l'analyse des échantillons des enfants exposés aux pesticides.
Ce que nous regardons, ce sont les dommages génétiques à travers la méthode de la comète. La comète, pour nous, c'est la cellule, composée d'une tête et d'une queue. La longueur de la queue indique le niveau de dommages génétiques. Plus il y a d'ADN dans la queue de la comète, plus il y a de dommages génétiques. Mais regardez ce qu'on observe dans vos échantillons. Regardez la taille de la queue de la comète. Le patrimoine génétique est totalement hors du noyau. Dans ce cas, le dommage génétique est considérable. Pour nous, les scientifiques qui travaillons en toxicologie génétique, quand nous trouvons ce genre de dommages, que ce soit chez des enfants, des adultes, des jeunes, on parle alors de risque génétique. Il s'agit quand même de la qualité de l'ADN qui va se transmettre de génération en génération.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors, typiquement, on se retrouve face à un vide, finalement, à combler. Stéphane Foucard, Eric Kempf, est-ce que c'est ce qui a peut-être changé aujourd'hui ce métier, être journaliste d'investigation sur l'environnement? Certains n'imagineraient pas qu'on doit aller jusque-là, c'est-à-dire combler les vides, renseigner, obtenir des données à la manière de Martin Boudot. Ça veut dire aussi faire le travail de services publics de santé ou autres, y compris en France, d'envoyé spécial sur France 2 concernant les enfants nés sans bras en France. Là, on était dans le même cadre d'une journaliste qui faisait le travail qui aurait dû être fait par des services autres.
Oui, tout à fait. Moi, je crois que d'ailleurs, le journalisme et la science ont beaucoup d'atomes crochus. Il s'agit quand même de produire des connaissances, de produire du savoir, quoi. Dans le cas de ce qu'a fait Martin au Paraguay, on voit qu'il y a des synergies, des collaborations très vertueuses qui peuvent se mettre en place. Parce qu'effectivement, le journalisme peut être aussi là pour compléter des connaissances lacunaires. Parce qu'on a souvent l'impression, en tout cas les scientifiques ont souvent l'impression que tout ce qui existe, tout ce qui est véritable est présent quelque part dans la littérature scientifique, c'est-à-dire qu'il a été déjà investigué. En réalité, pas du tout. Le journalisme d'investigation sur les questions d'environnement ou de science, c'est aussi un journalisme qui vise à interroger la nature des connaissances qui sont produites. Décider de financer une étude, c'est un choix politique aussi. C'est-à-dire, c'est pas uniquement un choix scientifique, rationnel, etc. Décider d'aller prélever
du soja, de la terre, et des
prélèvements sanguins d'enfants qui vivent au milieu des cultures de soja Roundup Ready, ça engage de l'argent, c'est une décision. Alors, souvent, on dit, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'études épidémiologiques qui montrent que, etc. Oui, mais souvent, parce que ces études épidémiologiques ne sont tout simplement pas financées. Ce qui se passe en Argentine aujourd'hui est encore sujet à débat chez certains scientifiques. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de données. Et donc, il y a un enjeu, à mon avis, qui est cardinal ici, pour le journalisme, c'est d'aider, en quelque sorte, la science à produire, à générer des données qui sont inconfortables, qui sont incommodantes, et que personne n'a envie de générer.
Donc, avoir des financements. Hervé Kempf, malgré tout, quand je citais le cas des enfants nés sans bras, on est en France. En France, on pourrait quand même espérer avoir ces études peut-être effectuées. Là, parce qu'au Paraguay, c'est vrai que les conditions ne sont pas les mêmes, les réactions des ministères ne sont peut-être pas les mêmes. Mais ça pose question quand même de générer des données dans des États qui potentiellement pourraient peut-être investir. Quand il y a des questions de santé à ce niveau-là.
D'abord, c'est pas seulement une question de science et de données scientifiques, c'est le fait de sortir des informations ou d'amener au jour des informations que des autorités scientifiques ou sanitaires ou autres auraient à sortir. Alors ça, j'allais dire, c'est presque la base du journalisme d'enquête, quelle qu'en soit la nature. Et de ce point de vue-là, il me semble pas que le journalisme environnemental ou d'environnement soit différent. C'est finalement les mêmes méthodes. Et par ailleurs, d'une part, il y a toujours une tendance des pouvoirs à perdre de leur vigilance. Et puis aussi, on est dans un contexte plus général de politique qui vise à affaiblir les contrôles de l'État, le nombre de fonctionnaires, l'affaiblissement des normes, etc. Donc voilà, je voulais prendre un exemple pour dire qu'il n'y a pas que les enjeux scientifiques, mais c'était un lanceur d'alerte justement avec qui on est entré en contact et qui était un inspecteur d'assurance pour un groupe privé qui inspecte donc des grands dépôts d'ammonitrate, c'est des engrais, mais qui quand ils sont concentrés ont des possibilités explosives et d'incendies extrêmement graves, en Alsace, dans une zone industrielle et à deux pas de Fessenheim et d'autres installations industrielles. Et en fait, ce lanceur d'alerte ne le disait, sa hiérarchie taisait son rapport d'inspection et les autorités diverses de la DREA, l'ASN ou l'alentour, en gros, étouffaient ou n'accordaient pas suffisamment d'importance au... Bon, ben là, le travail, c'est d'arriver à vérifier tout et puis à sortir l'information. Voilà, mais je dirais que c'est, une fois de plus, c'est pas une spécificité du journalisme environnemental et il n'y a pas seulement que dans la question d'environnement que ce type de comportement de la part des pouvoirs ou des autorités, quelles qu'elles soient, se pose. Et en fait, l'enjeu, moi, fondamentalement, c'est de réactiver, de redonner la possibilité de la liberté d'enquête, quels qu'en soient les domaines, mais en plus, avec beaucoup sur l'écologie, où il y a une matière à enquêter, à investiguer absolument colossale.
Et qui croise tous les domaines, on le voit de plus en plus. Alors, cela sous-entend, bien sûr, de bénéficier de complicité, on parlait des alerteurs, mais c'est aussi la complicité, Martin Boudot, de chercheurs, de spécialistes, de médecins, qui s'engagent peut-être plus volontiers aujourd'hui sur ces questions-là?
Oui, et qui manque cruellement de moyens aussi, il faut le dire, en France aussi. Hein. Moi, je tire mon chapeau à chaque fois aux scientifiques que je rencontre qui travaillent dans des espèces de bâtiments délabrés. La science française est dans un état pitoyable en termes de financement. C'est scandaleux. Et c'est le cas aussi au Paraguay, c'est le cas dans d'autres pays. On voit très bien qu'il y a des scientifiques qui veulent juste que leur travail ait du sens. Et ils ont du mal parce qu'ils ont des pressions politiques, parce qu'il faut publier. Vous savez que maintenant, pour exister, il faut publier. Mais parfois, le travail scientifique prend plus de temps. On a besoin de plus de temps. Maintenant, il faut publier. On est un peu à la course à la publication dans un journal scientifique. Et vraiment, je tiens à les féliciter et à les remercier, ces gens qui travaillent avec nous, ces scientifiques-là, qui sont très souvent des lanceurs d'alerte, qui vont parler contre leur hiérarchie et qui sont vraiment des personnes extraordinaires. Et moi, j'ai comme projet à terme, et Stéphane est au courant, j'ai comme projet à terme de pouvoir mettre en contact des citoyens avec des scientifiques, des journalistes avec des scientifiques, faire une plateforme où on puisse aider financièrement des scientifiques à mener des études, parce que parfois c'est l'histoire de 2000 euros au Paraguay. il leur manquait 2000 euros pour réaliser l'étude que nous avons fait ensemble. 2500 euros pour être précis. C'est rien, entre guillemets, si vous faites un financement participatif. Et des exemples comme ça, j'en ai vu en Chine, j'en ai vu en RDC, j'en ai vu en Indonésie, j'en ai vu en Afrique du Sud, des gens qui sont prêts à travailler, des scientifiques qui sont prêts à travailler, mais qui n'ont pas les moyens. Et j'aimerais, à terme, créer une plateforme avec, donc là, je lance un appel avec aux associations, si quelqu'un m'entend, cette plateforme qui puisse mettre en contact des citoyens avec des scientifiques et des journalistes avec des scientifiques pour pouvoir financer ces études qui manquent cruellement, produire de la donnée et que c'est de l'impact et qu'on puisse enfin commencer à faire bouger les lignes sur certains sujets.
Et il y a aussi quand même la partie adverse, hein, c'est-à-dire ceux que vous dénoncez. Finalement, il faut aussi trouver les méthodes. Alors pour un documentaire, de parvenir à entrer, par exemple, chez Monsanto ou chez des industriels peu scrupuleux, je pense à l'autre documentaire sur la mode. On replonge dans votre documentaire à la rencontre du directeur régional de Monsanto, Juan Carlos Cruz.
Est-ce que vous pensez que Monsanto a une responsabilité dans ces résultats, dans ces dommages génétiques ?
Je ne connais pas votre étude, Martin. J'aimerais bien vous répondre, mais...
Mais ce n'est pas la première fois qu'une étude montre que le glyphosate a des effets mutagènes. Et pourtant, Monsanto ne renonce pas au glyphosate. Pourquoi ?
Parce que nous croyons qu'il y a aussi une partie de la science qui montre que le glyphosate est sûr. Si nos produits sont utilisés correctement, il n'existe aucune étude scientifique robuste qui montre qu'il y a des impacts sur la santé humaine.
Mais l'Organisation mondiale de la santé qui classe le glyphosate comme cancérogène probable, ça ne change rien, ça, pour vous ?
Chez Monsanto, nous considérons qu'il n'y a pas eu un processus scientifique solide pour arriver à cette conclusion et que cela génère beaucoup de confusion.
Voilà un autre extrait de votre documentaire Paraguay, les cultures empoisonnées. Donc, vous pourrez découvrir sur France 5 dès 20h50 mercredi prochain. Concrètement, voilà, ça pose aussi cette question de, à la fois, vos méthodes d'approche. Hein, on sent que vous faites un petit peu l'innocent, hein, dans la façon de questionner Martin Boudot. Mais les méthodes d'intimidation aussi, peut-être auxquelles vous tous, là, vous êtes soumis quand vous êtes face à ces lobbies ou ces industriels. Que vous dénoncez quand même quelque part dans vos articles. Martin Boudot ?
Moi, cette intimidation, je la ressens évidemment sur le terrain avec des agriculteurs qui sont totalement pro-glyphosate et qui ne se posent pas du tout de questions et qui nous dégagent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à coup de pulvérisation de pesticides, pour le coup. C'est ce que j'ai vécu au Paraguay. Je l'ai vécu aussi avec des entreprises, des sous-traitants qui ne nous donnent pas accès à leur traitement d'eau usée, etc. Et on sent des pressions sur le terrain. Ici, en France, très clairement, moi, les pressions que je ressens, et je laisserai mes confrères aussi s'exprimer, c'est plus des pressions économiques. Très clairement, nous, on fait attention aux moindres mots qu'on utilise, parce qu'on sait très bien que H&M peut nous faire un procès, le Crédit Agricole peut nous faire un procès, Bayer, pourquoi pas, à terme, Monsanto, mais que eux, ils ont une batterie d'avocats, ils en ont 30, 40, nous, on en a un. On en a une en l'occurrence, donc le combat est un peu disproportionné et ça coûte beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle les procédures bâillon.
Stéphane Foucard, les intimidations.
Oui, il y a des intimidations. Effectivement, on est toujours un petit peu précautionneux sur les mots qu'on emploie, sur la qualité des informations qu'on publie, etc. Il y a aussi beaucoup d'intimidations qui sont beaucoup plus pernicieuses, qui passent maintenant par les réseaux sociaux, par la blogosphère, par les commentaires qui sont postés au-dessous de nos articles. Hein. C'est le cas dans les journaux généralistes, mais aussi sur les forums, sur Internet, etc. Et on voit comme ça que l'intimidation, elle prend de nouvelles formes, en fait. Elle est plus seulement juridique. Bon, pour une société comme Bayer ou Monsanto, il y a aussi un dégât d'image très fort à attaquer un journal comme Le Monde ou un site comme Reporter. Donc, en général, ce genre de société, il réfléchit à deux fois avant d'y aller. Mais moi, je crois qu'il y a vraiment, depuis, je dirais, un peu moins d'une dizaine d'années, une vraie stratégie avec des vraies campagnes de dénigrement ciblées contre des scientifiques, des lanceurs d'alerte, des journalistes, pour essayer de dénigrer ces gens, de dévaluer leurs paroles.
Et de dérouter l'opinion publique.
Et de dérouter tout à fait l'opinion publique. Il faut avoir, à mon avis, conscience de quelque chose de très important sur toutes ces questions, c'est que, par définition, les questions environnementales sont compliquées. Toujours. Et plus quelque chose est compliqué, plus c'est facile d'instrumentaliser les arguments, de sortir les choses de leur contexte, de faire croire à des choses qui sont fausses. Il faut avoir à l'esprit que le climato-scepticisme en France est né sur Internet. Le climato-scepticisme, quand on y pense comme ça, on a toujours des images qui nous viennent, sont celles de quelques scientifiques isolés qui ont pris la parole de manière assez régulière dans les médias ces dernières années. En réalité, quand on regarde la genèse de ce mouvement, tout cela est né sur Internet au milieu des années 2000, en 2005-2006. Et Internet, la blogosphère, les réseaux sociaux ont joué une sorte de rôle d'incubateur qui a généré ensuite une prise de parole publique de certaines personnalités sur la question du climat et sur la négation du consensus scientifique du réchauffement. Et donc, ce sont des stratégies qui payent.
Hervé Kempf.
Intimidé, non. Enfin, pas que je me souvienne, sinon d'une manière indirecte. Je me rappelle que dans le journal où je travaillais naguère, qui s'appelait Le Monde, il y avait je faisais une enquête sur Vinci dans la foulée de Notre-Dame-des-Landes et le directeur de la communication de Vinci avait appelé ma chef de rubrique pour dire que ce que je faisais n'était pas bien. Que les questions que je posais n'étaient pas bien. Depuis, je dirais non, un problème, mais je suis toujours très prudent. D'abord, au début, reporter, on était, il y a 3-4 ans, assez petit, donc les sources ne nous répondaient pas. On appelait EDF, par exemple, on appelait le ministère, on appelait, je ne sais pas, Vinci ou un certain nombre d'amis de ce genre, et les gens ne répondaient pas. Alors maintenant, ils commencent à nous répondre, ils se sentent un peu obligés de nous répondre, et d'ailleurs, on donne leur point de vue, parce que, comme le rappelait Martin, on n'est pas militant, il est absolument essentiel d'avoir le point de vue contradictoire et d'aller voir ceux qui tiennent peut-être un autre discours que celui qu'on... Bon, et ça, l'autre chose, c'est la question des procès est vraiment... je vais dans la continuité de ce que vous dites, mais la question des procès est vraiment importante. Ça, Basta, notamment, qui a été attaqué par Bolloré, a remporté le procès, mais que d'énergie passée, que de frais d'avocat, que de temps perdu. Nous, on a aussi un procès par en diffamation par une personne, un entrepreneur corse qui a bâti un restaurant et un hôtel de luxe dans une réserve naturelle près de Bonifacio, en ayant bénéficié d'une certaine passivité de la part du préfet, etc. Il y a une expression qu'un témoin nous a dit dans l'article qui nous vend un procès de diffamation. Bon, alors, comme le rappelait Stéphane, ça va, le jour où on le mettra publiquement, je pense que le procès donnera une certaine publicité, une mauvaise publicité à ce monsieur, mais c'est quand même du temps perdu, on a autre chose à faire. Donc ça peut être plus par ces voies détournées que par l'intimidation directe. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay?
C'était Hello Sunshine de Bruce Springsteen et c'est la suite, bien évidemment, de notre émission de Cause à effet sur France Culture consacrée aujourd'hui au métier de journaliste d'investigation sur le terrain de l'environnement. Et nous en discutons avec nos trois invités, Stéphane Foucard, journaliste des pages Planète Sciences du Monde, Hervé Kempf, rédacteur en chef du site reporter.net et Martin Boudot, réalisateur de documentaires comme ceux à découvrir mercredi prochain sur France 5 dès 20h50, Paraguay, les cultures empoisonnées, et qui sera suivi aussi d'un deuxième documentaire, Indonésie, le fleuve victime de la mode. On poursuit nos discussions, messieurs, dans un instant, juste après la revue d'info environnement. Et une fois n'est pas coutume, une revue d'événements aujourd'hui et conseils lecture. Et tout d'abord, l'océan à l'honneur avec une grande exposition qui vient d'ouvrir au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et qui se tiendra jusqu'au 5 janvier 2020. Et le 8 juin prochain, eh bien, à l'occasion de la fête de l'océan, les tribunes du muséum auront pour thème « Agissons pour l'océan » et proposeront des échanges, des rencontres avec des chercheurs, des militants, des start-upers et aussi une déclinaison pour les juniors. Et je vous signale aussi que la Fondation Tara Océan se lance dans une nouvelle mission sur 10 fleuves d'Europe aux origines de la pollution plastique. Autre rendez-vous à suivre dans les jours à venir, les Happy Days qui fêtent leurs 10 ans, les 13, 14 et 15 juin prochains, dans plus de 100 villes, avec 500 apiculteurs mobilisés, événements, ateliers, expositions, rencontres, animations, ont pour objectif de vous faire découvrir gratuitement et en général de façon assez festive et pédagogique l'univers des abeilles et des pollinisateurs sauvages qui restent, rappelons-le, des espèces bien sûr à protéger. Et au rayon livre, à vous conseiller, eh bien en lien avec l'océan, le livre de Pierre-Robert Delatour, Frère des orques, qui relate ses 20 ans de plongée et de communion avec ses mammifères marins, les connaissances scientifiques qu'il en a tirées, puis les contacts aussi privilégiés, bien sûr, tissés. Et son action, on ne l'oublie pas, pour leur préservation, avec une belle préface de Paul Watson, un livre édité chez Glénat, et puis deux autres livres sur les bienfaits de la nature, Natura de Pascal Derme, qui nous explique pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux, un livre paru au Lien qui libère. Et celui de Marc Giraud, Le bonheur est dans la nature, les conseils d'un naturaliste pour vivre heureux, c'est chez Delachaux et Niesley.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Eh bien, vous avez peut-être des conseils lecture, messieurs, d'ailleurs. Stéphane Foucard.
Ah, moi, le dernier livre qui m'a beaucoup marqué, qui est d'une certaine manière lié aux questions environnementales, c'est un livre de James Scott, Homo Domesticus, qui est apparu aux éditions La Découverte.
Martin Boudot.
C'est une très bonne question, parce qu'il faudrait que ça ait un lien avec l'environnement ou pas du tout.
C'est mieux, mais allez-y, allez, ce que vous voulez, comme ce que vous emmenez dans vos reportages.
J'aime bien me changer les idées quand je suis en reportage, donc en ce moment je lis le nouveau Houellebecq, rien d'exceptionnel. Ça raconte quand même un quotidien dans le 13e arrondissement, quand vous êtes au fin fond du Paraguay, c'est un peu réconfortant de voir les méandres d'un quarantenaire dans la jungle parisienne, donc c'est assez jouissif de voir ça depuis la forêt paraguayenne.
Avec Kempf.
Moi j'ai lu un livre qui a beaucoup marqué récemment, que je trouve formidable, La société ingouvernable de Chamaliou, je crois que son prénom c'est François, aux éditions La Fabrique, qui est sorti il y a quelques mois. Et ça raconte comment, dans les années 70, le capitalisme qui subissait l'assaut, l'ébranlement des révoltes des années 60, a changé son logiciel et a élaboré ses stratégies pour faire face et pour démonter en quelque sorte cette opposition. Il y a notamment tout une partie sur, à l'époque on a tendance à l'oublier, aux États-Unis, le mouvement écologiste ou environnemental était d'une puissance incroyable, a vraiment bousculé les choses, et comment, dans ce mouvement du capitalisme pour faire face à toutes ces oppositions, ils ont trouvé les stratégies pour démonter les attaques environnementales. Stéphane, faut que tu lis, ça te plaira beaucoup.
Ah bah écoute.
Eh bien, les auditeurs pourront retrouver vos conseils sur le site de l'émission, bien sûr. Alors, sur ces questions d'enquête, on se dit qu'on n'enquête pas de la même façon, et on ne restitue pas non plus les enquêtes et les données, les preuves que vous essayez de constituer, ou les uns les autres, de la même façon, si l'on fait un documentaire, si l'on écrit un article, si on est aussi sur le numérique. Hervé Kempf, est-ce que vous sentez une différence ou peut-être une plus grande liberté ou voilà, à quel niveau est-ce que vous vous placez de votre côté ?
La liberté, elle tient pas au support, elle tient au propriétaire du média. Donc on a la chance d'être totalement libre et de ne dépendre quasiment maintenant qu'à 80-85% de nos lectrices et de nos lecteurs. Après, une fois de plus, il n'y a pas de différence qui permet de faire des enquêtes, c'est d'avoir du temps. Il faut un peu de talent et de savoir-faire, mais
le temps long est un luxe.
Il faut du temps, il faut pouvoir repasser du temps, se passionner. Souvent on fait des sujets, puis ça n'accroche pas, ça plaît pas, et malgré tout on le fait. Il faut aussi une rédaction qui vous soutienne. C'est vraiment important, des chefs de service, des rédacteurs en chef, une rédaction qui comprenne le travail d'enquête qu'on peut faire. Je vais juste prendre un exemple parce qu'il y a des, enfin juste un ou deux, mais on s'accroche à des sujets, on se dit, ok, là par exemple, on a beaucoup travaillé, c'est pas directement environnement, mais c'est un paysan par rapport aux normes, c'est vraiment l'enjeu de l'agriculture. Et donc il y a en mai 2017, Jérôme Laronce, dans Saône-et-Loire, un paysan qui a été tué par des gendarmes dans des conditions absolument anormales. Et on s'est mis en tête de creuser cette affaire parce qu'elle nous paraissait importante. Donc Marie Astier y a été. On a fait une première série d'enquêtes. Elle y est retournée. On ne lâche pas. Et je ne sais même pas si ça intéresse vraiment les gens. Enfin, c'est idiot de poser... Ça ne fait pas du trafic, ça ne fait pas... En fait, si, on sait que ça intéresse les gens, mais on ne lâche pas et on se donne les moyens d'y aller. Parce que aussi, la journaliste dit, c'est important, il faut que j'y retourne. Et on sort peu à peu des fils. On oblige, par exemple, à la justice à ne pas laisser tomber cette affaire.
Parce donc, que concrètement, c'est un jeune agriculteur, un trentenaire.
Qui était brillant, qui avait d'énormes qualités, qui avait une belle exploitation. Et puis, qui à un moment, à un autre, le système agricole industriel devient tellement difficile avec les normes.
À déraper.
Et la machine administrative s'est mise en... Là, on parlait tout à l'heure de contrôle qui n'était pas effectué. Il y a parfois parfois aussi des cas où la machine administrative applique trop les contrôles et avec une inhumanité terrible. Ce qui fait que Jérôme Larron, ça fait des erreurs, ça arrive, mais aucun acte vraiment délictueux, a fui au moment où il y avait les administrateurs, les contrôleurs qui venaient avec une armada de gendarmes absolument invraisemblable, est parti avec sa voiture, a disparu pendant quelques jours. Les gendarmes organisent une sorte de battue, retombent sur lui et le tuent alors qu'il ne le menaçait pas. Et ça, c'est ce que l'enquête de Marie établit de manière claire, d'accord. Et les avocats et derrière. Voilà. Donc, juste pour donner cet exemple, une fois de plus, il n'y a pas que la science. C'est-à-dire, on a des fils sur l'environnement qui renvoient à d'autres choses, à des mécanismes ou à des phénomènes sociaux. Mais je ne veux pas être trop long, mais je dirais le temps, le soutien d'une rédaction, des moyens aussi. Bah, il faut pouvoir payer le train, il faut pouvoir passer une nuit à l'hôtel, il faut pouvoir payer un repas. Enfin, ça paraît idiot, mais c'est important, le temps d'enquête et de reportage. Et après, en termes de support, je dirais que bon, moi, j'ai découvert beaucoup Internet venant de l'univers du papier. On peut revenir beaucoup. Il y a des liens hypertextes. On peut revenir sur les histoires. On peut montrer les documents, ce que le papier ne permet pas toujours. Ça permet des écritures différentes. Mais sur le fond, c'est le même journaliste. Je veux dire, quand Stéphane Foucard,
nous, on a juste des difficultés en plus sur les autorisations de tournage.
Oui, c'est vrai.
C'est plus compliqué. Voilà. Nous, on a un peu plus. On a évidemment, c'était un outil un peu plus lourd que la presse écrite. Vous pouvez à peu près aller n'importe où en presse écrite. Évidemment, pas n'importe où, mais vous serez une personne lambda qui marche. Moi, je suis à 2-3 avec une caméra, donc très vite on est repéré, donc voilà, c'est des difficultés un peu plus techniques. Sur les documentaires que nous on réalise, c'est en gros un 52 minutes, hein, un documentaire classique d'investigation avec des scientifiques sur l'environnement, c'est 4 mois d'enquête, un mois de tournage, un mois de montage, en gros. Donc c'est vraiment un luxe aujourd'hui à la télévision et même dans le paysage médiatique de pouvoir avoir autant de temps pour travailler. On revient sur le premier critère, le temps, c'est primordial. Et par ailleurs, nous, heureusement qu'on a ce temps-là parce que le temps scientifique n'est pas le temps journalistique. Les scientifiques, ils travaillent pendant des années. Nous, si jamais on arrive à travailler 6 mois sur le même sujet, c'est déjà magnifique. Donc, il faut aussi arriver à concorder ces différents emplois du temps. C'est vrai que nous, en télévision, très clairement, on est moins discret, donc on passe moins inaperçu. Et c'est vrai que parfois, ça nous pose pas mal de problèmes avec une question toute bête. Hein. Quand vous êtes dans un pays, qu'on vous refuse une autorisation de tournage, vous allez commencer à filmer de manière illégale. Si vous êtes arrêté, l'ambassade de France vous dit « mais attendez, fallait demander l'autorisation de tournage, ben, on l'a demandé, mais elle a été refusée. Ah oui, ben, est-ce que ça veut dire qu'on arrête l'information? Est-ce que parce qu'on n'a pas eu notre autorisation ou notre visa presse, on n'y va pas? Moi, je ne pense pas, mais c'est vrai que c'est un moyen très simple, administratif ou administratif, de nous empêcher de travailler.
Stéphane Foucard, est-ce qu'on a aussi de temps en temps presque l'obligation aujourd'hui ou la tentation de se coupler avec d'autres médias peut-être parce qu'on sait qu'on sera plus fort et qu'on arrivera à faire peut-être plus fortement la preuve qui peut faire changer la donne et bouleverser des vies aussi?
Oui, je pense qu'on est dans une situation globalement d'inflation de l'information où il y a tout un enjeu qui consiste à capter l'attention pour à faire l'événement autour d'un sujet dont on estime qu'il est important. Pour l'exemple qu'on donnait tout à l'heure du fichier Monsanto, on a travaillé avec France 2, on s'est coordonné, on a travaillé ensemble en bonne intelligence, on est sortis en même temps et on a eu beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de poids en faisant comme ça qu'en chacun tirant de notre côté. Je crois qu'aujourd'hui l'enjeu, il est moins un enjeu en ce qui concerne la presse écrite en tout cas, moins un enjeu de support qu'un enjeu précisément de mise en place de collaboration, de partage d'informations au niveau international. Le Monde participe à un consortium de journalistes qui est basé aux États-Unis, qui s'appelle l'ICIG, le Consortium International des Journalistes d'Investigation, qui a beaucoup produit d'enquêtes internationales très importantes sur les questions d'évasion fiscale, sur les questions économiques.
Sur les implants mammaires aussi, non, c'était le cas ?
Justement, et alors précisément, le consortium réfléchit de plus en plus à conduire des enquêtes collectives sur des questions environnementales. Il y a énormément de questions qui ne sont pas des questions nationales, qui sont des questions internationales, des questions des implants mammaires, qui est le dernier exemple. En l'occurrence, c'est de la santé, mais les problématiques sont très proches des problématiques environnementales. Les pesticides, il y a tout un tas comme ça de sujets qui vont pouvoir être explorés par des dizaines de rédactions qui vont partager des informations, qui vont se coordonner pour, à un moment donné, faire l'événement autour d'un sujet environnemental.
La collaboration, c'est l'avenir de l'investigation. Moi, c'est évident à mes yeux. J'ai commencé ce boulot-là il y a 11 ans. J'avais encore l'image et ça existait, hein, de journalistes d'investigation un peu dans son coin qui partagent pas les infos, etc. Et on a vu récemment à quel point la collaboration était un outil pour nous formidable. Imaginez, on revient sur la discussion de tout à l'heure, les procédures bâillons, les procédures juridiques. Quand vous avez une entreprise qui est mise en cause par une centaine de rédactions, vous réfléchissez à deux fois avant de les attaquer. C'est une centaine de rédactions à attaquer. Donc vous êtes plus fort juridiquement, vous êtes plus fort économiquement et vous avez un impact plus important. Donc vous êtes parfaitement dans votre rôle de journaliste d'investigation et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez potentiellement de l'impact. Donc c'est, voilà, on revient à cette définition du journalisme comme service public. La collaboration, c'est l'avenir de l'investigation. Il n'y a pas de...
Et encore une fois, ces collaborations internationales, à mon avis, elles sont cruciales parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le système économique, il fonctionne de manière internationale, que dans chaque pays, on est en prise avec une toute petite partie du problème. Le tourteau de soja qui est produit au Paraguay ou au Brésil, il finit en France pour nourrir du bétail. Enfin, tout ça est complètement intégré pour pouvoir faire des enquêtes qui aient du sens, disons, du sens du début d'un problème à sa fin. Je crois qu'on est obligé maintenant d'en passer par ce genre de travail collectif.
On sent qu'il y a ces différents niveaux d'interpellation des consciences d'ailleurs. C'est dans le film, on voit le niveau local et national, hein, comme au Paraguay, comme en Indonésie, etc. Mais il y a aussi le niveau international qui est induit parce que c'est la chaîne alimentaire, par exemple, là, le soja qui est produit, qui va nourrir probablement des bêtes en Europe ou en Amérique du Nord, et puis qui ensuite va revenir dans la chaîne alimentaire des hommes. De la même façon, la chaîne industrielle pour les vêtements, et ensuite ce sont des vêtements que l'on porte, et on commence à se rendre compte qu'il y a des maladies aussi de peau, etc., qui se développent. Donc finalement, c'est une conscience aussi, une façon d'interpeller, parce que de bout en bout, tous les pays sont concernés. Ça part des pays pauvres souvent, et puis finalement, ça, par ricochet, les conséquences arrivent dans les pays industrialisés. Hervé Kempf.
Nous, on aimerait bien faire plus de collaborations internationales, mais on est encore trop petit, même si Reporter grandit, mais on est quand même une petite rédaction. On est 8, 9, 10 journalistes. Donc, on n'est pas, par exemple, on bosserait aisément avec le Guardian, ou qui fait un excellent boulot en environnement, ou on rejoindrait, mais pour l'instant, on est trop petit pour rentrer dans ce genre de collaboration internationale. Et on n'arrive pas à trouver en Allemagne, en Italie, en Espagne, d'équivalent de nous avec qui on pourrait bosser. Voilà, parce qu'en fait, pour bien bosser ensemble, il faut être un petit peu dans le même jeu, dans la même classe, quoi. Ce qui n'empêche pas plein d'amitié, de liens, etc. Mais il y a aussi cet enjeu de taille. Et par ailleurs, il y a un autre aspect, c'est formidable de bosser sur l'international, mais moi je suis frappé de voir à quel point il y a plein d'histoires locales dans la France. Et en fait, il y a peu, à ma connaissance, les réseaux de correspondants locaux des médias s'affaiblissent de plus en plus. Or,
comme l'affaire à Vittel que vous suivez aussi. Il y a
oui, cet exemple, on a beaucoup bossé sur Vittel.
Alors expliquez-nous peut-être en deux mots ce qui se passe.
En deux mots, là c'est aussi une enquête un petit peu à long terme où on est revenu. En deux mots, donc Vittel est une ville des Vosges qui, comme son nom l'indique, produit une très bonne eau, mais qui est sous la coupe, clairement, de la compagnie Nestlé, qui non seulement, puisqu'arrive à l'épuisement de la nappe phréatique parce qu'elle a trop pompé, commence à dire on va continuer, mais du coup les habitants de Vittel et de l'agglomération aux alentours ne peuvent plus prendre l'eau de sa propre nappe phréatique et devraient aller la chercher à plusieurs dizaines de kilomètres de là, ce qui pose quand même un gros problème, et qui par ailleurs a une emprise locale, parce que c'est évidemment la boîte énorme, dans cette petite ville de 5000 habitants.
Donc ils rachètent les terres agricoles dès qu'elles sont en vente.
Ils font pression sur les agriculteurs, ils font pression sur un certain nombre de choses. Il y a d'ailleurs, ils sont sous le coup d'une enquête, d'une plainte lancée par Anticor en matière de corruption. Enfin, voilà. Donc ça peut être une histoire très locale, effectivement, le raconter. Mais je dirais, essayer de bâtir aussi un réseau de correspondants locaux, de gens qui alertent et qui sont capables de faire monter une histoire au niveau national. Parce qu'aussi, il faut le dire, beaucoup de journaux régionaux n'ont pas forcément la liberté de parler de telle affaire ou telle affaire, parce qu'il y a des liens locaux. Donc voilà, il y a cette double dimension internationale. Et là, ce que vous avez dit, Martin et Stéphane, c'est absolument précieux de faire ces collaborations internationales, mais aussi avoir une attention à un niveau de réseau local. Et je rêverais presque, mais la discussion m'entraîne à dire ça, avoir plus de liens avec des petits journaux, avec peut-être des journaux régionaux où le journaliste peut pas raconter ce qu'il veut dans, je vais pas citer de nom, mais dans tel journal de Lyon ou de Clermont-Ferrand.
Il y a le site Médiacité.
L'appel est lancé, là, Hervé.
Le site Médiacité commence un peu à faire ça.
Absolument.
Journalisme d'investigation locale, Médiacité, qui fait de la collaboration avec des...
Ils bossent avec Mediapart. Et Mediapart, de temps en temps, on a des échanges avec eux. Ils font un très bon boulot.
Ils font un très bon boulot et ils commencent aussi à remplir ce vide qui était laissé par l'investigation locale, régionale, parce que Reporter ne peut pas tout...
Il faut de l'argent et qu'ensemble, on est plus fort face à ces questions.
Médiacité, c'est pour moi l'une des meilleures initiatives d'investigation de ces deux dernières années. Donc, c'est à regarder.
Martin Boudot, dans vos documentaires, à la fin, on mesure aussi combien ces recherches, ces données, ce qui est financé, permet aussi de changer les choses. Et pour un journaliste d'investigation, pour Stéphane Foucard, pour Hervé Kempf, vraiment, on imagine que la victoire ultime, c'est de voir que le travail fait a aussi changé les normes, changé une législation et permis à des gens juste de vivre plus sainement. Vos plus belles victoires ?
Bah, récemment, c'est pas forcément très sexy, mais c'est d'avoir changé effectivement les normes de contrôle des traitements des eaux usées en Indonésie. Il y a quand même 500 usines qui polluent le fleuve Citarum, qui est donc le fleuve le plus important de l'île de Java, sur lequel j'ai beaucoup enquêté. Et oui, clairement au Paraguay, notre étude, elle fait la une des journaux, elle remonte jusqu'au Sénat, où on discute effectivement de l'étude, et elle crée un débat national. Alors je sais pas si ça va changer les choses, parce que ça c'est pas moi, je suis pas législateur, mais clairement, oui, c'est une récompense de voir que son travail est utile et sert à faire émerger un débat. Et rien que ça, c'est déjà une première victoire. Moi, je suis pas là pour dire il faut plus de pesticides, moins de pesticides, etc. Je dis simplement voilà la façon dont c'est fait, voilà ce que nous on a trouvé, et maintenant débattez. Et Stéphane, Foucard, il a beaucoup aussi participé à une victoire qui est plus diffuse, mais la question des pesticides. Il y a 4 ans, moi, quand j'ai fait mon sujet sur les pesticides pour Cache Investigation, je devais expliquer ce qu'était le glyphosate. Ça paraît dingue. C'était il y a 4 ans uniquement, en 2016, même pas, mais il y a 4 ans, il y a 3 ans. Donc vous voyez comment ce travail-là, cette documentation, cette investigation permet de sensibiliser aussi l'opinion publique et donc de créer un débat. Et ça, c'est une victoire à mes yeux.
Et donc vous êtes resté en contact avec les familles que vous mettez sur le devant de la scène, en tout cas dans vos documentaires?
Absolument. Et les associations en Indonésie, ils ont reçu des nouveaux moyens pour pouvoir sensibiliser les habitants et les usines pour éviter de propager la pollution. Sur place, la docteure Benitez, avec qui je travaille, va publier son étude d'ici quelques jours. Elle a été la cible de très graves attaques de la part des semenciers de soja qui commencent déjà à décrédibiliser son travail et à dire carrément qu'elle s'est enrichie alors que cette dame travaille depuis 25 ans dans l'hôpital des pauvres à Asuncion. Donc je suis vraiment leur travail et l'idée c'est de créer un site et de pouvoir donner des nouvelles, de donner des contacts, etc. pour vraiment que les gens qui se sont touchés puissent aussi continuer à suivre le combat de ces personnes.
Et à témoigner.
Absolument.
Vos victoires, Stéphane Foucard, Hervé Kempf, ou peut-être celles que vous attendez, ou des échecs, c'est aussi le métier.
Moi, je dirais que ces dernières années, peut-être que la chose dont je suis le plus satisfait, c'est peut-être la révélation des Monsanto Papers, avec ma consoeur Stéphane Aurel. Monsanto Papers, d'ailleurs, c'est le monde qui a baptisé ces documents Monsanto Papers. C'est une série d'enquêtes donc, qui a commencé à être publiée en 2017 et qui a donné lieu à la création d'une commission d'enquête parlementaire européenne sur les méthodes d'homologation des pesticides en Europe et qui, bon, couplée à tout un tas d'initiatives citoyennes, d'ONG, etc., tout cela a conduit finalement à une réforme qui est en cours, une réforme du système d'homologation et d'évaluation des risques des pesticides en Europe qui pourrait changer pas mal de choses.
Après, il faut lutter contre le temps long, c'est ça? On aimerait que ça aille plus vite, hein?
Oui, et en même temps, c'est quand même des intérêts économiques énormes, c'est des filières de production à changer, enfin tout ça est très compliqué.
Et qu'il y a aussi des familles hein, qui travaillent, qui vivent aussi de leur emploi dans ces secteurs-là, ouais. Et il ne faut pas l'oublier. Avec Kempf.
Je crois que c'est difficile d'associer un travail journalistique et un succès directement, parce qu'il y a tout un ensemble social qui joue autour, des scientifiques, des gens qui luttent, des gens qui s'engagent, etc. Et nous, on est d'une certaine manière des porte-voix, on aide à donner de l'écho à des gens formidables, généralement. Mais dans ce sens-là, avoir accompagné la bataille tenace de Notre-Dame-des-Landes avec des gens incroyables depuis longtemps, et quand même, ce projet d'aéroport a été abandonné. Parfois, des victoires plus petites. On a beaucoup accompagné aussi Roibon et un projet de Center Park à Roibon. La bataille n'est pas finie, mais quand il y a 3 jours, un jugement du tribunal administratif renvoie Center Park dans ses cordes, on est un petit peu content. Et puis, parfois, il y a aussi des bagarres. Je vous parlais tout à l'heure de ce vrai travail de ce lanceur d'alerte sur le dépôt d'ammonitrate. Le fait qu'on ait pu sortir cette histoire et lui donner un certain écho a fait que, du coup, les autorités sur place ont changé et qu'ils ont changé les conditions de stockage de cet ammonitrate. L'ennui, c'est que ce lanceur d'alerte, en ce moment même, est en voie de licenciement. Et donc, on va essayer de l'accompagner pour faire savoir ça, parce que il a fait un boulot formidable, il a évité sans doute un accident grave, et pourtant, il va être sanctionné.
Mais il y a des conséquences, et presque, certains diraient des dommages collatéraux, mais effectivement, il paye lourd, hein, c'est ça, c'est ce que vous dites.
Ouais, les lanceurs d'alerte. Et l'Europe fait parfois des choses bien, il faut le dire. Elle a enfin, l'Union européenne a enfin voté pour le statut d'un lanceur d'alerte il y a quelques semaines, et il faut le souligner, et peut-être qu'ils vont pouvoir enfin être protégés, moi je l'espère en tout cas.
Stéphane Foucard, ce statut, c'est vrai qu'on en a débattu, hein.
Ah bah oui, c'est-à-dire que nous, on ne serait pas grand-chose sans ces lanceurs d'alerte, hein, certainement. En France aussi, hein, il commence à y avoir une législation un peu plus protectrice qu'elle ne l'a été par le passé. Ouais, je crois qu'il faut vraiment souligner le courage et l'engagement de ces gens, oui, tout à fait.
Alors, dernier point qu'on abordera dans cette émission avec vous, c'est le reproche finalement qui est parfois fait à vous, un journaliste d'investigation sur l'environnement, c'est la noirceur aussi. La noirceur de la vie, les mauvaises nouvelles, ne pas ouvrir la fenêtre sur des solutions. Bah, les solutions, finalement, elles sont là, elles existent. Extrait du film Indonésie, le fleuve victime de la mode.
Au terme de ce voyage, un espoir. Et s'il était possible de produire des vêtements le long du Chittagong tout en respectant l'environnement et la santé des riverains? C'est le pari de cette grande usine, la seule du pays à avoir décroché un écolabel international très exigeant. Endra Indrawirawan a investi plus d'1 million d'euros pour produire du tissu de manière plus écologique et plus responsable.
Nous avons sélectionné les meilleurs produits de teinture chimique pour qu'une fois traitée, l'eau que nous rejetons ait le minimum d'impact sur l'environnement.
À l'extérieur, les eaux usées sillonnent les bassins de décantation, de filtration, de réoxygénation.
L'eau que nous rejetons est potable. Nous sommes un petit exemple pour montrer au monde qu'on peut faire des affaires en ayant un minimum d'impact sur l'environnement.
Alors la touche positive, Martin Boudot, donc on la retrouve dans vos documentaires également.
Oui, là c'est un exemple d'une solution qui existe, d'une production textile plus respectueuse de l'environnement, mais en quelque sorte, de suivre le combat des lanceurs d'alerte, c'est aussi quelque chose de positif, de montrer que y a des gens qui se bougent face à ça pour essayer d'améliorer leur santé et leur environnement. Et donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de positif, parce que je sais bien, j'entends ce qu'on nous dit, vous êtes noir, vous êtes beaucoup trop sombre, à chaque fois que vous faites de l'investigation, on a envie de suicider après. Bah ouais, mais malheureusement, on donne l'état du monde tel qu'il est, et moi, ça me rend pas spécialement heureux de montrer tout ça. Et je crois qu'aussi l'impact, d'une certaine manière, est aussi une sorte de solution, de montrer que ça a de l'impact, que ça fait bouger les choses. Mais force est de constater que les scandales environnementaux, ça manque pas sur la planète, et que bah, nous, on est là pour informer. Bah, ouais, on parle plutôt des trains qui arrivent en retard que ceux qui sont à l'heure. Et puis surtout, on voit ce qui se passe, l'urgence environnementale, écologique, ça déborde de partout, c'est rouge partout. Bah, on est obligé de le dire, on va pas transformer la réalité pour faire plaisir, c'est que ça serait compliqué, je pense.
Et puis on n'a pas toujours des solutions, hein, Stéphane Foucard.
Non, il n'y a pas toujours des solutions. Puis surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut quand même dire quelque chose, qui est que je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas beaucoup de scandales environnementaux sur la planète. C'est que le fonctionnement du monde aujourd'hui est un scandale environnemental. C'est-à-dire que le fonctionnement mainstream standard de l'économie provoque le changement climatique, provoque l'acidification des océans, provoque des pollutions massives systémiques dans une variété de lieux. Enfin, il faut aussi rendre compte de ça.
Pour en avoir conscience.
Exactement. Et le journalisme de solution tel qu'on essaye de le vendre en général comme quelque chose de très positif en disant à chaque problème il y a une solution, ben en fait non, à chaque problème il n'y a pas toujours une solution. Et c'est faux de dire, c'est pas une option idéologique, c'est juste erroné de dire qu'on va pouvoir continuer à profiter du monde comme on le fait aujourd'hui avec des solutions techniques, avec des avions électriques, avec des voitures un petit peu plus sobres en énergie, etc. C'est simplement faux, c'est pas vrai.
Hervé Kempf, le mot de la fin.
Ah bah c'est gentil. Bah écoutez, on va finir un peu sur la gaieté. D'abord, accompagner les luttes, je crois que c'est important, parce que face à tout ce qu'on décrit et ce que tu viens très bien de dire, Stéphane, il y a aussi voilà, au Paraguay, en France, partout, en Russie, des gens incroyables qui se bagarrent, qui sont courageux, et que cette énergie-là, cette pulsion de vie, de ce courage, il est absolument essentiel. Et puis, il y a nous, les solutions, on s'y intéresse assez peu, je suis totalement d'accord. En revanche, il y a les alternatives. Et quand on voit que dans tous les coins de France, et d'ailleurs, mais les gens font des choses formidables. Je prendrai juste un petit exemple, puisqu'il y avait eu un reporter il y a 30 ans, et on avait fait un article sur les croqueurs de pommes. Et à l'époque, donc les croqueurs de pommes, c'est ceux qui ont fait revivre les espèces domestiques de pommes. Et ils étaient, mais quelques-uns, il y a 30 ans, c'était des vieux messieurs ou des vieilles dames qui avaient cette passion folle d'essayer de sauver des espèces de pommes. Et on refait l'enquête maintenant. Et on voit que le mouvement des croqueurs de pommes, il y en a partout en France, et que ça passionne les gens, et qu'il y a des jeunes, etc. Et donc voilà, il y a aussi 1000 histoires formidables et heureuses à raconter.
Merci à tous les trois. Stéphane Foucard, je rappelle le titre de votre dernier livre, Des marchés et des dieux, paru chez Grasset. Hervé Kempf, Tout est prêt pour que tout empire, paru au Seuil. Martin Boudot, vos deux documentaires à voir mercredi prochain sur France 5, dès 20h50, Paraguay, les cultures empoisonnées, suivi à 21h45 de Indonésie, le fleuve victime de la mode. Et puis bien sûr, toutes les informations sont à votre disposition sur le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute, vous pouvez nous suivre sur Twitter et puis sur la page Facebook, bien sûr. Dimanche prochain, émission spéciale consacrée à Chantal Jouanneau, présidente de la CNDP, la Commission nationale du débat public, une femme investie également sur le front de l'environnement. Et puis dans un instant, suite de vos programmes sur France Culture, Être et Savoir vous attend avec Louise Touré.